Média. Média.
Podcast.
Média. Podcast.
C'est avec un énorme plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle escale culture au cœur de l'Afrique.
Média 1, Amna, l'Afrique en culture.
Et dans quelques instants, eh bien, nous parlerons musique avec Hamza Bnis Smiles. Il est compositeur de musique de film, trompettiste, mais également auteur-compositeur. Et il sera avec nous donc, dans quelques instants pour nous parler eh bien, de son tout dernier EP, baptisé sobrement Raqshat El Hayat. On reviendra avec lui sur son univers empreint de musique classique, marocaine, mais également africaine. C'est dans quelques petites minutes. Sinon, nous parlerons également littérature avec notre deuxième invitée de l'Afrique en culture, Bouchra Boulouise, qui revient eh bien, avec son tout dernier roman baptisé La pierre de Tinrir. Elle sera avec nous pour nous parler eh bien, de ce nouveau roman très énigmatique à la lisière de la science-fiction. Elle sera avec nous dans quelques instants. Sinon, nous parlerons également cinéma avec le tout dernier film de l'Angolaise Pocas Pascual, une des pionnières du cinéma angolais. Elle nous revient eh bien, avec Time to Change, un documentaire expérimental qui rend quelque peu plus visible, palpable, si j'ose dire, la continuité de la force destructrice eh bien, de l'époque coloniale sur l'humain, la faune et la flore. On en parlera dans quelques instants. Et comme promis, place à notre première invitée du jour. Il s'appelle Hamza Bnis Smiles et c'est un véritable mélomane. Il a ça dans le sang. Il faut dire que Hamza Bnis Smiles est un véritable mélomane, compositeur de musique, de films, trompettiste émérite. Il est également auteur-compositeur et nous a régalé dernièrement avec Raqshat El Hayat, son tout dernier EP et qui de mieux pour nous en parler que Hamza en personne.
J'ai coutume de dire que la musique ou le musicien, quand il s'exprime, c'est un peu comme un orateur. Et donc, on a tendance à utiliser la langue qu'on aime, à faire référence à des univers qu'on apprécie. Et dans mon cas, c'est le jazz, les musiques traditionnelles marocaines qui sont très présentes dans mon premier EP, qu'on voit en image présentement. Et aussi donc, beaucoup d'influences africaines, de musique classique. Voilà, c'est un peu une synthèse de tout ça. Et quand on se met à composer, je pense que tout ça ressort assez naturellement. Entre ce qu'on aime écouter, ce qu'on aime dire, c'est ce qui ressort.
Et justement, dans un instant, on parlera de ton EP. Et question composition. Voilà, quand on est écrivain, on couche des mots, vous couchez des sons. Comment te vient l'inspiration et comment ça se passe pour toi, tout ce processus de création? Est-ce que c'est seul? Est-ce que c'est avec des autres musiciens? Comment te vient cette petite flamme qui va faire, qui aura une créativité derrière?
Alors, à l'origine de la composition, ça, c'est un travail qui est solitaire, personnel. Et j'ai coutume de dire aussi que bon, c'est pas une puissance extérieure qui s'exprime tout d'un coup. Comme on travaille son instrument, on travaille ses gammes, on travaille le répertoire qu'on va jouer pour se produire. Et ben, la composition aussi, c'est quelque chose qui se travaille. Donc, j'essaie de composer le plus souvent possible. Et parfois, quand j'ai l'impression de tomber sur une bonne idée, je me dis, ah bah tiens, peut-être que ça vaut le coup de pousser ça un peu plus loin. Donc à ce moment-là, je la formalise, je lui donne une certaine forme, une certaine direction. Et effectivement, ensuite arrive un travail de groupe, on va dire, puisque quand on met dans l'univers du jazz, en tout cas, il y a beaucoup d'improvisation, il y a beaucoup de liberté. Et donc une fois que j'ai cette composition, je suis assez confiant, je la soumets à mon groupe, en tout cas avec les très très bons musiciens avec qui j'ai la chance de jouer. Et cette matière, elle se transforme encore. Encore et encore, et quand on se produit aussi en concert, on teste des choses. Et il y a beaucoup de liberté dans la musique que j'écris, donc très souvent, on peut venir à plusieurs concerts, écouter le même morceau, mais pas du tout jouer de la même façon. c'est ça que je trouve intéressant.
Et justement, ton EP Raqsat El Hayat, donc 4 titres, si je ne dis pas de bêtises, comment t'es venue l'idée donc, de cet EP? Comment tu l'as créé? Voilà, quel a été le moteur qui a donné naissance à ces compositions?
Alors, ces compositions, en fait, j'en ai 12 au total. Pour l'instant, on n'a pu enregistrer que 4. Et c'est venu avec, voilà, c'est plusieurs années. Il y a quelques morceaux qui sont relativement récents, il y a d'autres morceaux qui datent un peu. Et voilà, c'est cette envie de jouer, je pense, quand on a l'occasion ou l'opportunité de pouvoir jouer sa propre musique, ben, je pense que c'est très intéressant. Voilà, si on revient sur l'analogie avec le discours, ben c'est quand même un grand privilège d'avoir l'opportunité de pouvoir s'exprimer. Là, pour le coup, musicalement, et de montrer un peu ses idées. Et ce que j'ai envie de montrer, c'est justement ce que j'appelle cette musique marocaine moderne, voilà, qui est originale, qui est composée et jouée par des Marocains. On a un groupe avec piano, basse, batterie, trompette, bugle, l'instrument que je joue, et le oud aussi, qui vient apporter la touche marocaine. Dans les rythmiques, on trouve les influences un peu plus africaines. Dans la composition, dans les progressions d'accords, c'est plus l'univers du jazz. Et voilà, j'essaie de composer des mélodies qui, d'abord, me plaisent à moi. Et je me dis que c'est un bon départ. Voilà, si je dois les exprimer ensuite, en espérant que ça plaise au public aussi.
Est-ce qu'il y a des dates de prévues pour venir découvrir en live cette EP?
Alors, bientôt, après le mois de Ramadan, on va faire une petite tournée. Je n'ai pas encore les dates précises, mais... je communiquerai là-dessus dès que tout sera ficelé.
En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Hamza, c'est un plaisir de te recevoir, notamment pour parler
merci de ton
EP. Donc, Raqsat El Hayat, merci beaucoup et à très bientôt.
À bientôt, merci.
Et après avoir parlé musique, nous parlons tout de suite cinéma avec Pocas Pascual, une des pionnières du cinéma angolais. D'ailleurs, elle est réputée pour son savoir de mise en image des traces et des séquelles de l'époque coloniale. Une histoire qu'elle a elle-même vécue dans sa propre chair, dans sa propre famille, puisqu'elle n'avait que 9 ans quand les Portugais sont partis d'Angola. D'ailleurs, dernièrement, elle a présenté Time to Change, un documentaire expérimental qui rend visible la continuité de la force destructrice de l'époque coloniale sur l'humain, sa mémoire, son vécu, sa conscience et la faune et la flore. Pocas Pascual figure donc du pionnier du cinéma angolais. Nous a régalé avec ce nouvel opus Time to Change. Et comme elle le dit, il y a un vrai problème. Les colonisations ont été créées, ils ont créé ces stigmates et ça ne change pas. Donc on continue à avoir un regard très négatif sur les personnes noires. Je ne vais pas citer toutes les difficultés que nous passons. Pour moi, il est effectivement temps de changer. Je le rappelle, elle avait 9 ans quand les Portugais ont quitté l'Angola, détentrice de cette mémoire. Elle a vu des choses et sa famille a également vécu cette histoire. Time to Change, c'est une histoire qui se transmet donc de génération en génération. Elle dit « J'ai eu de la famille qui a été mise en esclavage, qui a été déportée. J'ai beaucoup de souffrances de cette histoire coloniale. Ça a été horrible parce que non seulement ils sont restés trop longtemps, 500 ans, mais ils ont aussi complètement détruit la culture angolaise. Ils ont même interdit aux gens de parler leur propre langue. Time to Change est un film exutoire qui fait office d'exorcisme. Il est question de souffrance, d'une plaie béante, une blessure aussi physique que mémorielle. Donc Time to Change, un film signé par la réalisatrice angolaise Pocas Pascual. Et après avoir parlé cinéma, nous parlons tout de suite littérature avec l'auteur Bouchra Boulouise qui nous a régalé avec son tout dernier roman baptisé La pierre de Tinrir, un livre qui nous a beaucoup interpellé, un roman que l'on doit à Bouchra Boulouise qui nous étonne à chaque fois. On l'écoute tout de suite.
L'inspiration de La pierre de Tinrir, elle est partie de ces deux images que j'ai eues.
D'accord.
Non, une idée et une image. Mm-hmm. Parce que l'image que j'ai eue, c'était au Zoudaïa. Mm-hmm. Zoudaya, je ne sais pas si vous connaissez bien. Merci. En haut, il y a une terrasse qui est fermée au public. Mm-hmm. Et une fois, j'ai eu la chance de la visiter. Il y a les escaliers, il y a les cellules, là, les anciennes cellules almohades et tout ça. Et puis en haut, il y a cette terrasse. Donc c'était un peu noir, mais tellement agréable, tellement... Peut-être à commencer un peu à remonter cette... Oui, un peu ça. Et j'ai gardé cette image-là, je l'ai gardée, et c'était une image un peu de la mort, au-dessus de la mort. Donc le meurtre a été commis là. Voilà, le meurtre de... Parce qu'il y a un meurtre, bien sûr, dans la pierre de Tienrir. Et puis après, il y a une enquête. Et le meurtre, la personne qui est morte, c'était le conservateur du musée des Oudaya.
D'accord.
Le pauvre. Donc de là... Qu'est-ce qui s'est passé? L'enquête, on se rend compte que il y a eu des fouilles à Tienrir. Mm-hmm. Et dans ces fouilles-là, il y a eu l'affaire d'une pierre. Une pierre qu'on a retrouvée et qui était bizarre. Mm-hmm. Bon, cette pierre, finalement, il s'avère qu'elle est magique, qu'elle contient des substances qui donnent de l'énergie à quoi nourrir toute un pays, toute une région, de toute l'Afrique même, une source d'énergie extraordinaire, mais qui est tombée du ciel, hein, qui est arrivée. Elle est tombée du ciel, et puis après. On rentre un peu dans la science-fiction, c'est que cette pierre, si elle est tombée, quelqu'un l'a déposée. Là.
Oui.
Est-ce qu'on est dans les extraterrestres, ou est-ce qu'on est dans des choses que non identifiables, etc. On est dans quoi? Alors là intervient mon idée, je quitte l'image, c'est que dans les années 50, au Maroc, les Français, les Américains militaires, ont été témoins d'apparitions étranges dans le ciel marocain. Ça, c'est vrai, hein, c'est pas, je ne l'ai pas inventé, je l'ai lu.
D'accord.
Et en 76, en septembre exactement, un objet volant non identifié a été aperçu dans les cieux d'Agadir. Puis, en même temps, on en a vu à Rabat, à Marrakech.
Okay.
Le défunt roi Hassan II décide de contacter les Américains. Et à l'époque, c'était Husni Ben Slimane qui était commandant de la gendarmerie royale, qui est chargé de prendre contact avec les spécialistes du Pentagone pour voir d'où venaient s'il y avait des informations sur ces mystérieuses formes observées dans le ciel marocain.
D'accord.
Ça, c'était, je suis en train de vous dire ce qui est écrit par la presse à cette époque. Le secrétaire d'État américain, c'est Henry Kissinger, a lui-même répondu à la requête du représentant du roi pour dire que ce phénomène peut s'expliquer par des causes naturelles et qu'aucune enquête ne devrait suivre.
D'accord.
Donc, on a classé l'affaire. Mais ce qu'il y a à retenir, moi, ce que je retiens, c'est qu'on n'est pas éloigné de ces choses étranges qui se passent dans l'univers. Mm-hmm. C'est pas parce qu'on est marocain qu'on n'a pas eu... On n'a pas accès à des choses qui dépassent notre entendement, notre culture, etc. Donc on rentre un peu avec cet article, je suis rentrée dans la science-fiction et dans le livre il y a des éléments de science-fiction qui sont très intéressants d'ailleurs. J'aime bien parce que je décris un peu comment un extraterrestre, quelle tête il peut avoir, comment il peut fonctionner. Au Maroc, dans la société marocaine. Et puis l'enquête, il y a le commissaire Mohsin qui fait son enquête et qui lui-même, il n'est pas prêt à recevoir ces histoires d'extraterrestres, mais il est obligé de faire avec. Donc, et il trouve quand même l'assassin.
La pierre de
conservateur.
Donc la pierre de Tienrir, votre tout dernier roman, Bocha Boulouise. Et comment s'est passée concrètement l'écriture de ce roman? Est-ce qu'elle a été difficile? Est-ce qu'elle a été plutôt fluide?
Non, ça a été facile.
D'accord.
Facile parce que contrairement à ce qu'on croit, écrire des enquêtes, c'est très mathématique. C'est pas c'est on ne dérape pas par des émotions inutiles ou par des il y a un mobile, il y a un meurtre, il y a une espèce de trame à respecter, et puis il y a l'enquête, et puis il y a la sympathie des personnages, parce qu'il faut aussi jouer sur le sympathique commissaire, donner un peu une image sympathique à la police. Heureusement que c'est possible, parce que effectivement le commissaire a beaucoup de succès auprès de mes lectrices. Et puis on me demande, mais est-ce qu'il existe vraiment, parce qu'il est très sympa, il est adorable, il est intelligent, il fait les choses bien, quoi. Donc voilà, il y a l'enquête, il y a les crimes, il y a le mobile, il y a les raisons, et puis il y a ce qui s'ajoute pour rendre l'œuvre plus agréable, pour qu'on ait envie de rentrer dans ce paysage du crime et des émotions, etc.
Donc la pierre de Tinrir, votre tout dernier roman à retrouver dans les librairies dès maintenant. Et je voudrais savoir, Boshra, est-ce que vous avez déjà peut-être l'idée ou une image, ou les deux, d'un prochain roman ?
Ben oui, justement, ça se passera toujours dans la région Tinrir, c'est à Taghonit.
D'accord.
Et c'est une affaire aussi qui va être aussi passionnante que celle-ci, parce que c'est une zone. De toute façon, l'Atlas et le bas de l'Atlas, c'est une zone mystérieuse. Mm-hmm. Et je pense il faut la sonder. Et moi, je trouve un plaisir à sonder ce mystère de nos origines. Réellement, c'est nos origines. Tout l'Atlas, quoi, tout ce qui a existé, qui a été oublié ou qui existe encore, hein, les traces sont là. Il suffit de chercher un peu dans les grottes qu'il y a là-bas, on découvre énormément de situations qui sont bonne à traduire en art, en écriture, ou en cinéma, c'est beau, c'est tellement beau, c'est magique, je veux dire, on est un peu dans la magie créatrice, quoi.
Donc la pierre de Tinrir, votre tout dernier roman, à retrouver donc dès maintenant en librairie. Merci beaucoup, Boshra Bolouiz, d'avoir été avec nous, merci.
C'est moi qui vous remercie, j'espère que j'ai été assez claire.
Très claire.
On a toujours peur de ne pas l'être, suffisamment. Quoi.
C'était super, merci beaucoup.
Voilà, je vous remercie aussi.
Merci.
Et mes amitiés à votre père.
Merci beaucoup, Boshra.
Allez, au revoir.
Au revoir. Et avant de nous quitter dans l'Afrique en culture, on finit par de la musique. Notre coup de cœur musical cette semaine qui revient à Sonia Nour, cette artiste que l'on suit depuis un moment. La chanteuse marocaine poursuit donc sa quête musicale avec la sortie de son nouvel album baptisé sobrement Dawini, disponible depuis mi-décembre. Et cet album se distingue donc par sa fusion entre plusieurs genres musicaux, shabby, indie pop. Et c'est vrai que c'est un véritable voyage sonore très éclectique, très racé. Il faut dire qu'avec Dawini, bien Sonia Nour nous plonge dans un univers musical unique, puisque l'album se compose de titres qui, chacun à leur manière, viennent explorer des thèmes universels, de l'amour à la liberté, en passant par les émotions, leur importance et l'introspection, un véritable voyage émotionnel, mais également musical. D'ailleurs, pour vous faire une idée, je vous propose de clôturer l'Afrique en culture avec Dawini de Sonia Nour. Question de vous faire une idée de son univers musical. Sonia Nour, une artiste marocaine qui a su s'imposer grâce à son style unique, avec ses influences orientales, ses influences africaines pop venues d'un peu partout, et on adore le résultat. Sonia Nour, donc Dawini, merci d'avoir été avec nous dans l'Afrique en culture. C'est à retrouver toujours en avant-première sur Média Podcast. Très bonne suite des programmes sur Média et surtout à très bientôt.